On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures.
Alors aujourd'hui, donc je suis anciennement Laoustan, à Aous-sur-Scie, et donc sur un projet que Chantal va nous expliquer. Elle est la mieux placée pour le faire. Bonjour Chantal.
Bonjour. Alors oui, effectivement ici vous êtes sur un lieu qui s'appelle Laoustan, qui était un foyer de Fonlor, l'association Fonlor, qui est bien connue dans la vallée, et qui accueillait des jeunes polyhandicapés. Okay. Il y avait 8 personnes là, qui étaient là, accompagnées depuis très longtemps, hein, depuis, je crois que le foyer a été ouvert il y a 30 ans, voilà. Dans un beau lieu, face à la montagne, entouré d'un beau jardin, une belle architecture. Un lieu qui nous a complètement séduit quand on a su que Fonlor allait le quitter et que la mairie d'Oust, qui est propriétaire du lieu, nous l'a proposé pour notre propre projet.
Alors, quel est donc ce joli projet?
Alors, ce projet, c'est une colocation pour personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. On connaît bien le principe de la colocation qui se répand de plus en plus. Il y en a moins pour les personnes atteintes de ce type de pathologie et ce sera même la première de Drôme-Ardèche. Voilà. Et la France, contrairement à d'autres pays, n'a pas beaucoup développé cette alternative. Il y en a 70 en France.
Ah, c'est pas beaucoup.
Ouais. Dont 45 en Bretagne. Donc, vous voyez, la Bretagne a une longueur d'avance, mais les autres régions, pas trop. Enfin, bref, nous, ce sera donc une colocation pour 8 personnes qui vivront ici, accompagnées, évidemment, 24 heures sur 24. Alors, l'originalité de notre projet, c'est d'avoir forcément des professionnels auxiliaires de vie qui seront là toute la journée, plus la nuit, un veilleur de nuit, éveillé. Mais c'est aussi d'avoir tout un système d'accompagnement des familles et des bénévoles. L'idée, c'est vraiment que cette maison, elle soit vivante, que les personnes ne soient pas invisibilisées, comme c'est souvent dans cette maladie, qu'elles puissent, qu'elles ne soient pas enfermées non plus. Il y aura toute une réflexion à avoir pour assurer la sécurité, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'elles puissent aller au village, si elles en ont envie, d'aller faire des courses, d'aller boire un café, de recevoir, un peu comme dans une maison de famille. On continue à recevoir les amis, la famille qui vient vous voir et qui s'intéresse aussi à la vie de la maison, pas seulement à la personne qu'on vient voir. D'accord. Voilà.
Et alors, ça sera des chambres, donc ça veut dire qu'après, il y aura des communs. Et donc, par exemple, les repas, la cuisine, tout ça, comment ça peut se passer, du coup?
Alors, il y a 8 chambres, chacun a sa chambre. Et il y a effectivement des espaces communs, vastes, avec une cuisine ouverte, qui seront partagés, effectivement. On espère bien que nos colocataires pourront participer, par exemple, à la préparation des repas. Ils feront tout ce qu'ils peuvent faire encore, hein, puisque notre projet, il s'appuie aussi sur une vision particulière de l'accompagnement de la maladie qui vient du Québec et qui a été mis en place par une femme qui s'appelle Nicole Poirier, qui a créé une méthode qui s'appelle Carpe Diem, cueille le jour, Carpe Diem, et qui, pour la résumer, s'appuie essentiellement sur pas les compétences parce que c'est peut-être encore un peu fort comme mot, mais tout ce qui reste comme habileté, ce qu'on peut encore faire.
Les capacités de chacun peut-être.
Voilà, éplucher des légumes, passer un coup de balai, voilà, ou faire des activités artistiques. Tout ce qui est possible, qu'on peut faire encore à la maison, ben on le fera ici, évidemment, accompagné.
Donc ça laisse supposer qu'il y aura des professionnels qui vont intervenir sur le lieu ou c'est pas professionnel ?
Si, il y a. Alors, les auxiliaires de vie sont des professionnels. Hein. On aura deux personnes en permanence, hein, de 8h du matin à 9h le soir. Après, il y a le relais qui sera pris par un veilleur de nuit. Mais bien sûr, ce sont des gens qui sont professionnels. Même si dans notre recrutement, qui est en cours, on privilégie, là aussi, peut-être qu'on se différencie un peu des méthodes utilisées en EHPAD ou ailleurs, on privilégie surtout le savoir-être. On veut des gens qui soient empathiques, qui soient joyeux, qui soient ouverts et qui adhèrent au projet, qui adhèrent à la méthode. Puisqu'il y a une méthode, donc ce que je disais, la méthode de Carpe Diem, qui essaye de partir de la personne et non pas d'adapter la personne au système. Donc, par exemple, parce qu'on nous parle souvent des risques de fuite, ok, c'est une possibilité, mais nous, on va d'abord chercher à comprendre pourquoi la personne veut partir. Qu'est-ce qui fait que peut-être qu'elle avait envie d'aller voir telle personne ou bien aller boire un café ou... Et pourquoi pas ne pas l'accompagner dans ce cas-là, puisqu'on aura aussi ce réseau de bénévoles qui sera là pour nous donner un coup de main, pour apporter aussi de la vie, des activités. Donc c'est une approche professionnelle aussi qui est un peu différente.
Alors, c'est une association à la base, c'est ça que vous avez monté Alors, vous êtes combien? Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic?
Alors, le déclic, on le doit à Carole Belmonte, qui est notre chef de projet actuel. Carole, elle a rencontré lors d'une formation, elle faisait un master de... je ne sais plus très bien, d'économie sociale, un truc comme ça. Et elle a rencontré une personne dont la maman avait la maladie et qui rêvait d'un autre accompagnement. Et elles ont décidé toutes les deux d'inventer cet accompagnement, enfin, en s'inspirant évidemment du Québec et de ce qui existait. Et alors, l'aventure a commencé dans le Puy-de-Dôme, puisque c'est là qu'elle faisait ses études. Et il y a eu donc toute une phase de préparatoire. C'est pas quelque chose qui est né comme ça du jour au lendemain. Hein. Ça fait quand même 10 ans qu'elle y travaille, enfin presque 10 ans. Dans le Puy-de-Dôme, à un moment donné, elle est venue dans la Drôme et elle a emmené l'association avec elle. Il y a eu un premier projet qui a failli se faire à Valence. Je ne connais pas exactement les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, mais le lieu est toujours inoccupé, donc je pense qu'il y a des problèmes administratifs compliqués. Et puis, comme ça ne se faisait pas, l'association, puisqu'entre-temps, Carole donc, avait trouvé un président drômois, François Vercouter, l'association a un peu lancé un appel aux communes qui disposeraient de locaux pouvant correspondre à ce qu'on cherchait. Et effectivement, la mairie d'Oust a répondu en disant qu'elle avait ce bâtiment. On a été aussi bien soutenus par Muriel Paré, qui est la conseillère départementale et qui est la présidente de Fonds-Laure, et qui nous a bien soutenus sur cette histoire. Je suis même engagée à quitter la Oust en privilégiant les ASA. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Aujourd'hui, l'association compte une cinquantaine de personnes.
C'est pas mal déjà.
Oui. Et surtout, elle est dynamique. elle a organisé aussi des manifestations parallèles comme le contre-salon des vieux et des vieilles.
C'est où ça?
De Valence, okay. Qui a eu lieu pour la 3e année cette année.
C'est quoi ce salon?
Le salon des vieux. Ben, c'est pareil, c'est un peu pour casser une image de la vieillesse. Alors là, c'est un contre-salon qui s'adresse à des gens qui n'ont pas de maladie. Hein. Enfin, justement, les vieux d'aujourd'hui, qui sont plutôt en bonne santé, qui sont plutôt encore dynamiques, et qui ne se reconnaissent pas dans l'image que la société renvoie d'eux, et qui ne leur proposent que des salons avec des ventes de déambulateurs ou des choses comme ça. Donc, c'était l'idée d'une jeunesse encore dynamique et qui peut apporter encore à la société. Donc, les ASA ont été porteurs du projet avec une association qui s'appelle les Camomilles Pétillantes, qui là, maintenant, reprend un peu la main parce que nous, on est quand même bien occupés par notre projet.
C'est quoi alors les Camomilles Pétillantes?
Faudrait leur demander, mais c'est des jeunes vieilles, ouais. Jeunes vieilles ou vieux. J'ai l'impression qu'il y a plutôt des femmes, ouais. qui adhèrent à cette vision de la... d'une vieillesse différente, quoi, d'une vieillesse active, d'une vieillesse où on ne décide pas pour vous.
Qui vous soutient aussi, ou enfin qui est proche de votre...
Oui, ouais. Oui, qu'il y a des membres de l'association qui viennent nous aider sur ce chantier. Parce que ce qu'on... Oui, enfin, on va peut-être y venir sur le chantier actuel. Mais... Donc, cette maison correspondait parfaitement à ce qu'on cherchait. Mais il fallait quand même quelques adaptations, puisque les gens qui étaient là étaient des polyhandicapés, qui était donc grabataire, et il manquait, pour le dire rapidement, il manquait des salles de bain et des toilettes. Donc on a une entreprise qui intervient pour ça, pour recréer des salles de bain et des toilettes. Mais le reste du chantier de peinture est, comme vous avez pu le constater, un chantier participatif.
D'accord. Donc à la limite, on peut faire un appel, c'est ça? Aux bonnes volontés?
Tout à fait, même si vous pouvez le constater, il y a du monde, on a su mobiliser, et on a surtout eu la chance d'avoir l'association de Oust qui s'appelle Action et Chantier Citoyen, okay. Qui nous accompagne. Alors ça c'est formidable parce que ce sont des retraités actifs eux aussi qui se mettent à disposition de projets à vocation un peu sociale ou collective ou citoyenne, quoi. Okay. C'est eux qui ont fait le four à pain de Doust, mm-hmm. à côté de la guinguette là. C'est eux qui l'ont fabriqué. C'est eux qui ont remis en état un parc. À chaque fois ils choisissent, mais ça faudrait parler avec eux, ils choisissent un projet qui parle à la collectivité, quoi. Et notre projet leur a plu, donc ils nous aident. Et ils nous aident grandement parce que c'est des gens compétents qui savent bricoler, voilà. Et ça c'est très très précieux de les avoir, ouais. Puisque tous les jours on en a un minimum deux, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt quatre ou cinq, ouais. Donc c'est formidable, ça, ouais, c'est du coup ça avance vite,
ouais. Parce qu'en fait il faut qu'il y ait une date limite pour ouvrir, ou comment? Oui,
alors là au départ on devait ouvrir en mai juin. Il y a eu un peu de retard pris d'une part parce que là Forlore est parti un peu plus tard que prévu, puisqu'ils s'installaient dans des nouveaux locaux qu'il fallait construire. Donc, bon, les retards de chantier, c'est un grand classique. Voilà, il y a eu en plus, malheureusement, le décès du maire d'Oust, qui a aussi un peu compliqué les choses. Donc, on a pris un peu de retard, et du coup, l'ouverture se fera en septembre. D'accord. Voilà.
Et comment ça se passe? Les gens amènent leurs meubles, c'est pas meublé? Enfin, comment vous avez réfléchi ça?
Alors, toujours dans l'esprit d'une maison de famille, donc c'est pas pour rien qu'on installe du plancher partout. Voilà, on enlève le vilain lino et on met du plancher. Chaque colocataire apportera ses meubles pour sa chambre, donc entièrement. Hein, toute la chambre sera vraiment à l'image de la personne. Et puis après, bah, pour les locaux communs, on va imaginer tout ça. Là aussi, on a des gens qui nous ont fait des dons de meubles, de canapés, de choses. Voilà, donc on va essayer au mieux de meubler ça, toujours dans l'esprit d'une maison de famille, encore une fois. C'est l'idée. Avec des espaces aussi où ils peuvent être un peu plus isolés. Hein. On n'est pas obligé d'être toujours à 8. Donc il y aura aussi des espaces un peu plus... privatif, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, où l'on aura pourra un peu s'isoler, quoi.
Voilà. Et alors, pour la cuisine, il se passe quoi? Il y aura une cuisinière ou pas?
La cuisine, c'est comme chez vous, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui la fait. c'est-à-dire, ce sera évidemment les deux auxiliaires de vie qui vont piloter tout ça. Mais pourquoi pas avec aussi un bénévole ou quelqu'un de la famille qui vient. Et puis en essayant le plus possible d'associer les colocataires. Mmh. Comme je disais, s'il y a des légumes à éplucher, bah, oui, voilà. Autant qu'ils le fassent, on va les associer. Si, ils mettront la table. Et, enfin, encore une fois, en fonction de leurs capacités restantes.
Et alors, par contre, financièrement, comment ça se passe? Parce que du coup, comme c'est collectif, j'imagine que c'est... Enfin, il y a un loyer, donc on le divise par le nombre de personnes. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Mais pour la nourriture, par exemple, ou pour le chauffage, ou pour toutes les charges, pareil, ça va être divisé. Ou comment, qui va choisir le menu? Comment ça vous allez organiser ça?
Alors, effectivement, on a un loyer, puisque ce bâtiment appartient à la mairie d'Oust. Un loyer raisonnable, puisqu'ils ont, comme ils soutiennent le projet, le loyer est raisonnable. Il y aura évidemment des charges de vie, hein, les mêmes que vous avez chez vous, quoi. Alors, et il y a surtout le poste principal, c'est les emplois salariés. Alors, en fait, ils seront tout, effectivement répartis. Tout sera divisé par 8, y compris les rémunérations des personnes qui seront en césure, en fait. Voilà. Et puis, qu'est-ce que vous me demandiez d'autre? Oui,
Par exemple, pour la nourriture, qui va décider du menu, finalement? Parce que j'imagine qu'on ne va faire pas un menu par personne, mais un menu pour 8.
Ah non, bien sûr. Eh oui. Oui, oui. Alors, en fait, bon, après, il faudrait rentrer dans les détails, mais il va y avoir un conseil de maison où il y aura des représentants du personnel, des familles. Et puis, il y aura aussi une coordinatrice de cette maison.
Ah, voilà.
Hein, en l'occurrence, Carole, qui sera sur un mi-temps. Donc la coordinatrice, elle va être là justement pour mettre en place, planifier les choses. Les menus, je pense qu'on va décider qu'il y a un petit briefing une fois par mois. Ça va se décider au fur et à mesure. Hein, Et puis où on décide de ce qu'on... Mais un peu, un peu collectif, quoi.
Parce que c'est pas toujours si évident que ça de fonctionner en collectif.
C'est vrai. Ben, il va falloir qu'on prenne la mesure aussi de chaque personne, quoi, hein, de ses goûts, Donc ça va se faire un peu au fur et à mesure aussi, hein, je pense.
Ouais. Et alors du coup, le choix, enfin entre guillemets, des familles, comment ça se passe? Vous avez déjà les gens? Comment vous avez fait pour
Alors, on a fait beaucoup d'informations. On a notamment fait des cafés-causeries qui se déroulaient tous les troisièmes jeudis du mois à la MJC d'Oust, qui nous accompagne aussi, où on exposait notre projet. Donc, il y a pas mal de gens qui l'ont découvert comme ça. Il y a eu des articles dans la presse, hein. Dans le Crétois, dans le Dauphiné, RCF aussi, je crois, a parlé de nous. On a fait des conférences de presse aussi. Enfin, bon, on a pas mal travaillé la communication. Et puis, on a un site qui est bien fait, je trouve. On a même fait un petit film pour expliquer tout ça, pour expliquer notre projet. Ça commence à être connu. Puis on a la chance d'avoir un nom que les gens retiennent bien. Parce que les Zaza, ça surprend un peu. Alors j'explique, parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi vous appelez les Zaza ?» En fait, c'est les Alzheimer. Oui. Donc c'est le petit surnom sympathique, plus mignon, voilà. Qui en dit long sur la démarche d'ailleurs. Hein. C'est aussi notre démarche, c'est aussi une façon de changer la vision de la maladie. De dire « C'est pas aussi dramatique ». Qu'on veut nous le. On peut vivre avec et on peut vivre encore bien, enfin en ayant encore des choses bien qui se passent. Voilà. Donc, on commence à être connus. Je pense que les gens commencent à nous connaître là maintenant.
Et vous, c'est quoi votre rôle exactement dans...
Moi, je suis membre du bureau. Okay. Je suis membre du bureau et c'est vrai que je m'occupe un peu plus de la communication. D'accord. Voilà. Et je suis concernée puisque je souhaite... je me suis engagée parce que mon mari a la maladie.
Voilà. D'accord. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette... Ah oui, est-ce que vous avez des aides? Parce qu'il y a des aides quand même pour ces choses-là, non?
Alors, nous, on relève du droit privé.
Ah,
donc,
ouais.
on n'est pas vraiment subventionné. C'est comme si vous vous installez avec des copains dans une colocation, vous n'allez pas avoir d'aide. Hein.
C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'association qui loue. Ça va être... Comment ça...
C'est
intéressant de le savoir. Il y a peut-être, ça peut donner des idées à d'autres gens.
Ouais. Quelque part, c'est chaque colocataire qui paye sa part de location. Quoi.
Okay.
Voilà.
Donc, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un s'en va, du coup, il faut avoir quand même peut-être une liste d'attente, parce que sinon, ça va compliquer la situation financièrement.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Vous avez tout à fait touché du doigt. Oui, bien sûr. Donc, d'ailleurs, on peut encore nous rejoindre parce qu'on n'est pas encore totalement à 8. On n'est pas loin, mais bon. On a bon espoir aussi qu'une fois que ce sera ouvert, que les gens connaîtront, qu'ils pourront voir. Voilà. Mais bien sûr, il faut... Alors, en fait, les aides, si, il y a quand même des aides, je ne peux pas non plus dire ça, mais c'est les aides que vous avez chez vous. C'est-à-dire que vous avez, quand vous avez...
Un loyer, des APL, des choses comme ça,
voilà,
ou...
par exemple, il pourrait y avoir l'APL, mais il y aura surtout les aides liées à la maladie. Okay. C'est-à-dire...
L'APA ou des trucs,
voilà, c'est ça, l'APA, le crédit d'impôt, okay. Voilà. Alors, évidemment, c'est on ne peut pas vraiment dire tel prix parce que c'est différent de chaque personne.
Bien sûr.
Mais en gros, on part sur une base de 2500 si on met loyer, nourriture, personnel, voilà. Et après, personnel se rajoute. Mais après, c'est différent pour chacun.
C'est différent
pour chacun.
Ça vous a semblé plus simple de faire en colocation plus que, par exemple, l'association qui pourrait chapeauter l'ensemble et du coup, peut-être aussi avoir des aides et des subventions ou même des mécénats, enfin plein de choses qui permettraient peut-être de gérer les choses différemment. C'était pourquoi ce choix, en fait?
Alors, ça ne nous empêche pas d'avoir du mécénat. Hein. On a des aides, puisqu'on est quand même, par exemple, sur le poste de Carole, puisque Carole, qui est chef de projet, son salaire, enfin son mi-temps, est financé par la Fondation de France. Donc, on a des aides. Hein. Après, l'idée, c'était pas de créer un établissement. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans des contraintes d'établissements médicalisés relevant de l'ARS avec des réglementations très particulières. Nous on veut un peu sortir de ça justement et on veut faire quelque chose le plus libre possible quoi. Donc c'est pas un établissement, c'est pas une résidence comme certains le croient à tort. C'est pas une résidence, c'est une colocation. Parce que quand on dit résidence, on pense à EHPAD. Non, c'est pas un EHPAD. Donc c'est pas l'association. Alors l'association, évidemment, il y a un bureau qui va gérer tout ça. Hein, l'association est évidemment présente, mais le fonctionnement même de la maison, c'est un fonctionnement de droit privé, quoi.
Voilà. Ça va demander aussi peut-être aux familles. Vous allez demander aux familles de s'impliquer un peu ou quoi?
Tout à fait, ça c'est la base aussi du projet. C'est-à-dire que les familles viendront, mais pas seulement pour voir leur... elles viendront s'impliquer dans la vie de la maison. Alors, qui peut venir un jour aider, donner un coup de main à la cuisine, ou au jardin, ou puisqu'on espère bien faire un jardin potager aussi, ou bien simplement aussi emmener... Parfois, il faut peut-être les emmener sur des visites médicales, l'emmener chez le médecin, chez le dentiste. Voilà, on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Donc, les familles signeront une espèce de contrat d'engagement.
Oui,
quoi.
Voilà ce que je voulais dire, parce qu'en fait, ça peut être aussi dans le choix que vous allez faire des personnes, c'est que la famille soit partie prenante. Quoi. C'est pas genre, on l'a déposé, salut. Quoi. Hein, c'est vulgairement parlant...
Ouais, pas du tout. C'est la base du recrutement. On ne prendra pas des gens qui... on n'est pas un EHPAD, on laisse pas sa personne là et on s'en va à terminer. Non, donc c'est la base, il faut des gens qui acceptent le projet, qui y croient, qui adhèrent aux valeurs qu'il y a derrière, qui croient à cette approche différente de la maladie, c'est vraiment la base. On ne vient pas là par hasard, quoi.
D'accord. Ouais, c'est important de le souligner quand même.
On ne vient pas là par hasard, on ne vient pas là parce qu'on n'a pas une place en EHPAD. Enfin, je veux dire, on vient là parce qu'on veut autre chose qu'un EHPAD. Même si il n'y a pas à critiquer les EHPAD, hein, non. Ils ont leur rôle et ils sont nécessaires, mais c'est un choix différent. Okay. Voilà.
Et alors, par exemple, vous avez prévu un véhicule
Pour le moment, non, mais chacun a des voitures, donc on se débrouillera. Hein, ouais, mais peut-être qu'un jour, ça viendra, je ne sais pas, peut-être, mais... On n'en a pas la nécessité pour le moment. Et puis, alors quand même, un des critères, c'est que tous les gens qui rentreront dans cette maison ne sont pas grabataires. Hein. Ce sont des gens qui, physiquement peuvent se déplacer et n'ont pas de trop gros problèmes physiques.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si c'est le cas...
Alors, c'est une bonne question. Notre idée, c'est d'accompagner jusqu'au bout. Le plus possible. Mais j'allais dire, un peu comme à la maison. Quand à la maison, sur la fin de vie, vous relevez des soins palliatifs, on va le plus possible chercher à travailler avec tout ce qui existe ici dans le coin, et notamment le service de soins palliatifs. Mais l'idée, c'est le plus possible jusqu'au bout. Et puis, s'il y a une personne qui est en fin de vie, est en fauteuil, elle sera en fauteuil. Mais on ne prendra pas 8 personnes en fauteuil. Vous comprenez. On va adapter à chaque cas, quoi.
Oui, parce que dans le vieillissement, il y a aussi physiquement une problématique qui peut se poser, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu, j'allais dire, comme la réflexion que vous avez à la maison. Hein. Comment on fait à partir de maintenant? Est-ce que c'est encore raisonnable qu'il reste à la maison ou est-ce que c'est pas raisonnable? Ben voilà, ce sera le même genre de questions qu'on se posera, mais avec l'idée quand même d'accompagner le plus possible jusqu'au bout.
Alors la question qui me vient, c'est de se dire, il y a 45 maisons en Bretagne. On se demande pourquoi en Bretagne, hein, d'ailleurs, ils sont ouverts à beaucoup plus ouverts.
Je pense que le département a une vraie sensibilité à la question, oui.
Est-ce que vous avez pris modèle sur certains? Vous êtes renseigné? Vous avez été voir ou comment? Oui.
Alors oui, on est allé voir des maisons. On a visité en France, en Allemagne, aux Pays-Bas.
Ah, génial.
Pourquoi en Allemagne notamment? Parce qu'on a été lauréat d'un prix de la Fondation Alzheimer Médéric. On a été lauréat d'un prix avec d'autres, et dans le prix, il y avait la visite de maisons en Allemagne. Donc, Carole et François sont allés il y a un mois ou deux visiter des maisons en Allemagne, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, c'est très répandu. En Allemagne, ils n'ont pas vraiment des maisons de retraite, mais ils ont près de 3500 colocations. Voilà. Donc, ils ont vraiment... Alors après, bon, c'est des modèles qui ne sont pas forcément tout à fait... C'est toujours pareil quand il y a une idée qui est bonne. Après, elle est un peu récupérée par le lucratif et tout. Donc, ça n'a pas forcément toujours été le modèle que nous, on souhaitait faire. Mais en France, par exemple, pour le moment, c'est vraiment essentiellement de l'associatif qui porte ce genre de projet. Oui, alors, il y a une maison pas loin d'ici avec laquelle on est bien en rapport, c'est celle de Crawl, côté de Grenoble, qui reçoit des malades vivant avec la maladie d'Alzheimer, jeunes. Voilà. Donc, et alors, on est vraiment, vraiment avec eux, puisqu'ils appliquent aussi la méthode Carpe Diem. Donc, on est très, très proche d'eux. Pour ce qui est de l'Allemagne, je vous dis, il y a des modèles qui ne sont pas tout à fait les nôtres, où c'est quand même un peu récupéré aussi par le privé lucratif. Donc, ce n'est pas trop ce qu'on veut. Mais oui, il y a plein de choses qui... Ça commence à bouger un peu, hein. Il y a des choses qui se font.
Donc, en Drôme, vous êtes les seuls?
En Drôme, on est les seuls, ouais, pour le moment. Ouais, on est les seuls et on a un autre projet à Chabeuil.
Alors, le même, la même
pareil, une colocation pour... pareil, je crois que c'est 8 aussi. Alors, le projet de Chabeuil a émergé à peu près en même temps que celui d'Oust, mais il prend plus de temps parce que, en fait, il est beaucoup plus lourd financièrement. Parce qu'en fait, il s'agit là aussi en appui avec la mairie de Chabeuil de réhabiliter une ancienne petite maison de retraite qui est dans le cœur de Chabeuil et pour la transformer en vraie maison de vie. Donc, il y a un gros investissement. Ouais. Et là, le montage est un peu plus compliqué. D'accord. Mais on y travaille toujours.
Ah oui, vous êtes toujours dessus.
Mmh. Ouais. Mais bon, une maison de retraite, du coup, ça veut dire plus grand. C'est plus grand, forcément, non ?
C'était une petite maison, hein, quand même. C'était une petite maison de retraite. Je crois, peut-être qu'on montera à 10 personnes, je ne sais plus très bien, mais pas plus, non, pas non. De toute façon, l'idée, ce n'est pas de faire... Ouais, non, parce qu'il faut tout transformer, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc, mais bon, c'est un peu plus compliqué là-bas. Mais la mairie nous suit aussi, et on est en train de faire un montage pour porter... pour que ce soit un peu d'autres qui portent le montage financier, parce que c'est un peu lourd pour nous. Nous, on a des petits moyens. On n'est pas... voilà.
Mais Aoust-sur-Scie, c'est un petit village qui est très dynamique, je trouve. Hein. Ils font beaucoup de choses. Hein.
Oui. Mais en tout cas, ils ont tout de suite adhéré à notre projet. Oui. Puis on a des bons rapports avec la MJC aussi, qui nous a accueillis pour nos cafés-causeries. Et on espère bien avoir des rapports avec... on en est déjà avec l'Association des commerçants, avec toutes les associations locales, pour tisser un lien avec la vie de la commune. Ouais. Et accueillir aussi, parce que cette maison, elle va être ouverte. Ouais. Donc, on veut accueillir du monde.
Et en fait, vous prenez des personnes plutôt de la région, enfin, je veux dire, autour, ou ça n'a pas d'importance ? Ben, si, quand même, puisqu'il y a des familles qui doivent quand même être présentes. Donc, quand même, dans un rayon, enfin...
C'est un peu le critère. Mais en fait, on se rend compte quand même qu'il y a des gens qui... Même de quelqu'un d'autre, d'un autre département qui va venir, parce que ça... Sa fille, en l'occurrence, dit « Mais moi, que j'aille passer le week-end chez vous, bien, c'est pareil. » Donc, ça ne lui fait pas peur de venir dans la Drôme. Donc, oui, en principe, c'est quand même un recrutement local. Oui. Mais on ne s'interdit rien. Hein, si les gens sont en capacité de venir s'impliquer comme on le souhaite, on ne s'interdit rien.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait...
Je ne sais pas, Carole, tu veux parler quand même un peu ?
Oui, parce que partie peut-être... prenante quand même depuis le début. C'est un peu l'initiative...
Oui, c'est un joli projet qui a grandi, mais qui a grandi de manière très collaborative, puisqu'on a démarré cette association avec deux petites têtes. Et puis aujourd'hui, ça a changé un peu de tête et on est une trentaine de bénévoles actifs sur le projet. On a régulièrement fédéré des personnes, tout simplement parce que on est sur quand même un accompagnement qui est assez innovant en France. Pour donner un exemple, en Allemagne, ne serait-ce que sur Berlin, on a 3800 colocations et sur la France entière, à peu près 80. Donc on a vraiment un retard. Il y a vraiment un retard à rattraper. Et je pense que tout le monde voit que ça va dans le bon sens. Donc, okay. Voilà.
Donc, envie de faire des petits quand même.
On a très envie de faire des petits. En plus, on est tous en âge de procréer, donc on a très envie de faire des petits. Mais non, c'est évident, on veut répondre le plus possible aux besoins du territoire. On est vraiment dans une approche auquel tous on croit. Donc quand on croit en quelque chose, on a envie de effectivement satisfaire le plus grand nombre. On n'est pas sur... On ne se dit pas qu'on a l'idée géniale et que c'est beaucoup mieux que le reste. Mais par contre, on pense réellement que c'est nécessaire. Donc d'avoir une alternative comme ça aux entrées en établissement pour des personnes qui ont envie de continuer à vivre normalement chez eux. Voilà.
Mais vous avez visité d'autres lieux, donc du coup, ça a conforté votre idée que c'était vraiment quelque chose de génial et de... Enfin... Oui.
Le premier lieu que j'ai visité, c'est Ogewe, à côté d'Amsterdam, qui est un village dédié à ça, où ils ont recréé des espaces de vie, un théâtre, un salon de coiffure, une épicerie, et où je me suis dit, waouh ! Alors déjà, c'est un établissement totalement ouvert, parce que ça reste quand même très français d'enfermer, mais les gens qui étaient là, en fait, on pouvait discuter avec eux, et on voyait qu'ils étaient bien. Et ça nous a conforté dans l'idée que ça peut exister. Ensuite, on a visité des lieux en France. Et puis dernièrement, je vous en parlais, on est allé à Berlin, où il existe énormément de colocations. Et à Berlin, parce que je pense que Chantal vous en a parlé, mais la Maison des Zaza, c'est un lieu ouvert de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. À Berlin, il est interdit d'enfermer quelqu'un, quel que soit son état physique ou psychique. Et en fait, ça se passe très très bien. Donc voilà.
Alors, ça, c'est une super expérience à propager quand même.
Oui, hein. Et puis il faut s'inspirer de nos pays voisins quand ils ont des bonnes idées,
oui,
comme ça. Donc voilà, on va effectivement ouvrir cette première maison et puis j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on a des demandes ailleurs. Donc ouais. Voilà.
J'ai un élu dernièrement qui m'a dit votre colocation, il faudrait qu'il y en ait une par village. Ouais. Vous voyez ? Donc quelqu'un qui y croit. Ouais. Comme il y a une micro-crèche par village, il faudrait, ouais, qu'il y ait une colocation pour personnes vivant, ouais, avec la maladie d'Alzheimer par village. Donc, je pense que c'est un modèle qui est appelé à se développer.
Ouais. Qu'il faudrait développer d'ailleurs. Ouais. Et pas seulement pour cette pathologie d'ailleurs, si on réfléchit bien. Juste même pour le vieillissement, ne serait-ce.
La
colocation.
On en voit de plus en plus, hein, des personnes... qui sont en forme et qui décident de vivre dans des colocations.
Oui, c'est
ça. Et pas dans des...
Oui, enfin, je ne sais pas s'il y en a vraiment tant que ça, quoi. Disons que ça tend à se développer.
Il y a
un
projet à Oust, par exemple.
Ah, aussi ?
Oui.
Décidément, non, à Oust, c'est l'endroit où il faut venir vivre.
Oui.
Ouais. Vous êtes d'où, d'ici ?
Non, de Pied-Gros, moi. Pied-Gros-la-Classe.
Oui, c'est à côté.
C'est à côté.
Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, je ne sais pas.
Moi, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Hein.
Un mot de la fin ?
Mot de la fin, Laurence.
Non ? Comment ça, non ?
Mot de la fin, on y croit fort. Et maintenant, j'allais dire que le plus dur reste à faire, non, mais il va falloir la faire vivre, quoi, cette maison. Et on espère bien compter sur beaucoup de monde et arriver à faire une belle... une belle vie à ces personnes qui y ont droit.
Et qu'est-ce que je veux dire, on peut faire un appel peut-être pour, si vous avez des besoins particuliers, je ne sais pas, en termes même de gens ou de matériel, ou je sais pas, des dons ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez un système, même les particuliers, est-ce qu'ils peuvent vous donner par exemple?
Alors, tout à fait. Alors, on a un site, donc lesaza.org, où vous... Il y a effectivement un appel à don possible via Hello Asso. En même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens pourront visionner ce petit film qui explique le projet, qui est vivant, qui est bien fait. Et effectivement, ils peuvent nous aider. On a aussi eu... je ne vous l'ai pas dit, on a eu un financement participatif avec un site qui s'appelle Les Petites Pierres. Et on a eu effectivement 15 000 euros qu'on a récoltés très très vite. Ils n'avaient jamais vu ça, on a eu très très vite. Voilà, donc on a eu aussi une donatrice généreuse qui nous a donné une partie de notre budget. Donc, on a du soutien, ouais. On a du soutien,
il en faut, parce que...
Mais il en faut, oui.
Oui, parce qu'il y a, ne serait-ce que pour le matériel de réfection des chambres.
Enfin, alors là, on fait avec le matériel de chacun. Enfin, je veux dire...
il faut de la peinture, il faut... pour la salle de bain, j'imagine qu'il faut du matériel, etc. Parce que vous faites, une salle de bain par chambre, un truc comme ça, oui.
Alors ici, c'est une salle de bain pour deux.
Pour deux ?
Oui, on a quatre salles de bain, voilà. On se dit oui, bien sûr. Oui. Alors là, c'est effectivement une entreprise qui intervient.
Oui, voilà.
Donc ça, pour ça, avec il faut ça, financement.
C'est ça qui, voilà.
Oui.
C'est le financement dont on, qui.
Voilà. Dont on Donc le financement sur LOSO, il est toujours en cours.
Il est toujours possible.
Oui, il est toujours possible. Donc, on peut toujours donner, etc. Toujours donner. Et est-ce qu'il y a des gens qui, parce que je sais qu'il y a des associations, je vais y arriver, qui font ça, c'est-à-dire mensuellement donner, par exemple, 10 euros par mois. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui peuvent donner 10 euros par mois, par exemple. Mm-hmm. Vous avez pensé à ça ?
Je ne sais pas si on l'a mis en place, ça, c'est Carole aurait été mieux en place. Je ne crois pas. Pour le moment, c'est des dons ponctuels.
Ok.
Voilà.
Oui, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui mensuellement seraient OK pour soutenir ce projet. Hein.
On peut adhérer hein, si on croit à ce genre de projet.
C'est une association, donc on peut mensuellement payer une adhésion ou autre chose comme ça.
C'est une adhésion annuelle, mais oui, on peut adhérer et puis suivre le projet. On a une autre assemblée générale il n'y a pas longtemps, pour la première fois dans la maison, où on avait ouvert les portes après, au moment de l'apéro, et on a eu plein de gens qui sont venus d'Oust, enfin, des gens qui croient dans le projet. Mais on est toujours, on accueille volontiers qui est intéressé par le sujet. Hein.
D'accord. Bon. Eh bien, merci les Azaz.
Ah, vous le dites à l'anglaise.
Ah oui, c'est les Azaz.
Effectivement, ça s'écrit les Azaz. Ah. Mais bon, comme on est en France, on dit les Azaz. Mais...
Les Azaz, voilà.
Apostrophes, non apostrophes, c'est même compliqué, la mine majuscule au milieu. C'est voilà.
D'accord. Okay. Et ben, bonne continuation et bonne vie au projet, en tout cas.
Merci beaucoup, merci à vous.
I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now to find my way here. See, I've been having me a real hard time. But it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feeling. I have found a man. So please don't take my feeling. I have found a man. Now if I wanted to, just kept going, I just kept going, and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Don't take my feelings.
Faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle.